Alors voilà, donc la question de l'humilité, j'aimerais bien là plusieurs points. Premièrement, un peu en exergue de cette question de l'humilité, cette phrase de saint Paul, que n'as-tu que tu n'aies reçu? Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Et je pense que vous êtes plusieurs, en tout cas, dans la retraite, à prendre conscience aussi de tout ce que vous avez reçu. De tout ce que vous avez reçu dans votre vie, de par votre famille. Bon, parfois certains ont des épreuves, mais beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi préservés quelque part de grandes épreuves comme la guerre, comme les maladies parfois très graves, des traumatismes. Bon, peut-être d'autres l'ont connu, mais beaucoup en tout cas, et me l'ont dit, ben voilà, c'est vrai que j'étais quand même très gâté par la vie, comme on dit habituellement. Mais de voir au fond, et puis même les épreuves aussi comme un don de Dieu. Et je pense que c'est important, que n'as-tu que tu n'aies reçu, c'est de l'humilité, c'est d'abord de découvrir que tout est don. Alors que l'orgueil, c'est tout est dû. C'est pas du tout pareil. Ça m'est dû. Je suis dans l'exigence, dans la revendication. Ça peut faire paraître partie aussi de ma propre histoire et qu'à des moments, ben je suis moi-même dans cette colère intérieure. Première partie, donc définition, étymologie. L'étymologie, donc c'est intéressant de voir l'étymologie des mots, j'aime bien travailler là-dessus. Humilité, ça vient de humus. Humus, le terre, le terreau. Le terreau de la vie chrétienne, c'est ce qui a formé le mot homme. Et ce terreau de la vie chrétienne qui fait que tous les talents que l'on a pu recevoir vont pouvoir se développer. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est comme un climat de fond, comme une base quoi, pour notre vie. Et à tel point, c'est une base que des talents qui sont vécus dans la volonté de puissance, dans la volonté de domination, bien, deviennent des défauts, alors qu'à la base, ils sont des talents. Alors qu'un défaut vécu dans l'humilité, je ne dis pas qu'il devient une qualité, parce que ce serait exagéré, mais en tout cas, il est plus supportable. Et donc, c'est cette terre dans laquelle l'humilité, au fond, va se développer notre vie chrétienne. Deuxième point, l'humilité est une vertu. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, c'est une disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est une vertu, et ça c'est très important de dire, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est une attitude intérieure, on verra, on développera un peu plus tard, quoi. C'est une attitude intérieure qui s'acquiert par la répétition des actes. Et je mets tout de suite en garde, il y a deux formes d'humilité, la fausse et la vraie. Il y a la fausse qui considérerait, au fond, l'humilité comme, au fond, se rabaisser dans le sens de se dévaloriser. C'est pas l'humilité. Et à tel point que quand on voit la Vierge Marie elle-même, toutes les générations me diront bienheureuse. Et ça, c'est très important. On ne grandit pas dans l'humilité avec une image négative de soi-même. Et avec une image... Non, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le chemin que Dieu a choisi pour nous. C'est certainement pas de l'humilité. Et moi, j'aime bien cette définition de la grande Thérèse, qu'on dit la grande Thérèse. Grande, c'est par rapport à la petite. Alors, ce n'est pas forcément une question de centimètres. Mais la grande Thérèse qu'on a, c'est Thérèse d'Avila. La petite, c'est Thérèse de Lisieux, vous le savez, bon, pour rappel. Ce que disait la grande Thérèse, elle dit, l'humilité, c'est la vérité. Au fond, l'humilité, c'est grandir en vérité, c'est devenir ce que l'on est, devenez ce que vous êtes. Ça veut dire d'abord s'accueillir. Et donc, du coup, s'accueillir, se recevoir, et je crois que c'est très important que... c'est du domaine de l'acquis. Alors, c'est vrai que, quelque part aussi, c'est à notre portée. C'est à la fois le travail de la grâce et à la fois le travail de notre travail, de la personne, de chacun. À la fois le travail de la grâce, à la fois le travail de la nature. Donc, c'est quelque chose à notre portée, accessible. C'est quelque chose dans lequel on grandit. Je vous fais remarquer que la foi est une vertu, que l'espérance est une vertu, hein, que la charité est une vertu. Et en même temps, c'est un don. C'est des vertus théologales, c'est ce qu'on appelle les trois vertus théologales. Elles sont données au moment du baptême, mais en même temps, le fait d'être donné, il y a une capacité qui est donnée d'aimer à la manière de Dieu, de croire en Dieu et d'espérer en ses promesses. Mais si cette foi, cette espérance, cette charité, elle n'est pas alimentée, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas entretenue, ben ça reste un état végétatif. Elles sont là, mais comme dans le cœur de beaucoup de chrétiens, mais du coup, la foi, comment est-ce que je fais pour grandir dans la foi? Ben en faisant des actes de foi. Et ça veut dire quoi faire des actes de foi? Ben ça veut dire faire des actes d'abandon, des actes de confiance, de remettre sa vie entre les mains de Dieu, et ainsi de suite pour l'amour et l'espérance. Alors vous avez les vertus, c'est un petit rappel, mais c'est un débriefing que vous connaissez déjà par cœur. Vertus théologales, donc qui ont Dieu comme objectif, comme finalité, et puis ce qu'on appelle les vertus cardinales, force, tempérance, justice, prudence. Très important pour le discernement. Mais nous partons, je veux dire, une vision chrétienne part beaucoup plus de l'acquis que de l'inné. Ce qui veut dire qu'il y a une porte ouverte vers l'espérance. Parce que si c'était inné et qu'au fond j'y puisse pas grand chose, eh ben, voilà, je me retrouve avec ça sur les bras. Et qu'est-ce que j'en fais, quoi? Non, c'est du domaine de l'acquis. Ça veut dire qu'il y a un chemin possible. Ça veut dire que voilà, si au niveau de ma foi, ben, je sens que c'est difficile, etc. Si ma pauvre fille, mais t'es pas, ou mon pauvre garçon, t'es tombé au mauvais endroit, on lui a donné la foi, mais là t'es tombé un peu au bord du chemin, et puis voilà. Ben non, c'est pas du tout ça. Il y a une responsabilité dans notre vie spirituelle. J'y reviendrai. Donc ensuite, l'inverse de l'humilité, pour être clair, c'est la volonté de puissance, volonté de domination, volonté d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, volonté d'être à la source. Alors que dans l'humilité, c'est l'inverse. C'est au contraire l'accueil de l'autre, c'est au contraire se mettre au service. Le Père Emmanuel l'a évoqué ce matin avec le témoignage de la Vierge Marie, c'est on est au service. Et même ceux qui ont une charge d'autorité sur d'autres, ils sont au service. Voilà, c'est tout à fait une autre mentalité. J'aimerais bien détailler plusieurs formes d'humilité pour que vous aider aussi à réfléchir de façon plus concrète. Premièrement, l'humilité face au temps. Je crois qu'on peut être orgueilleux avec le temps. Avec le temps, dans le sens qu'on n'accueille pas le rythme, son propre rythme, le rythme de l'autre, le rythme de Dieu. Et on voit bien que notre rapport au temps dit beaucoup de choses de notre rapport aux autres et de notre rapport à Dieu. Au fond, le rapport au temps, je trouve, est très intéressant parce que c'est comme un point d'iceberg, comme un épiphénomène qui manifeste autre chose. Et on voit bien qu'il y a en ce moment des formes de rapport au temps de personnes qui veulent mettre dans 24 heures plus que 24 heures, qui bourrent le temps quelque part, qui le compressent, qui le compriment. Il n'y a pas de respiration dans le temps. Il n'y a pas de... Voilà, tout est, d'une certaine manière, tout est fait et on vous encourage à chaque fois pour aller dans ce sens-là. C'est tout à fait clair. Hein, on voit bien, et ne serait-ce qu'avec l'Internet, etc., tout est fait pour... on vit H24. H24, c'est pas humain, parce que H24, c'est pas possible. Donc, quel est ton rythme? Ton rythme de sommeil, ton rythme de rencontre, ton rythme, etc., etc. Donc je pense que... Quelle est la place que tu laisses au contre-temps? Je trouve qu'il y a quelque chose de l'humilité qui se manifeste là, dans les contre-temps, et dans ce que je n'ai pas prévu, justement, dans ce que je n'ai pas planifié, dans ce que je n'ai pas organisé, dans ce qui arrive et qui vient me mettre, c'est vraiment clairement le grain de sable dans le rouage. Est-ce que je trépigne? Est-ce que j'accueille? Est-ce que j'accueille? Voilà. Vous voyez, je vous donne un exemple. Juste avant la retraite, le jour même, le 27, oui, bon, le frère Christophe, le frère hôtelier, découvre au fond que la femme de ménage, en fait, n'avait pas fermé, en fait, il y a eu une coupure de d'eau. Elle avait laissé le robinet ouvert. L'eau ne coulait pas. Bon, elle est rentrée chez elle, mais entre-temps, l'eau était rétablie. Et pendant 24 heures, ça a coulé dans la maison qui devait vous accueillir. Et on a une place où on a des chambres pour tout le monde, mais on n'a pas plus de chambres que ça. Donc, alors, il fallait, voilà, typiquement un contretemps. C'est des choses, voilà. Mais c'est important d'avoir un regard de foi par rapport au contretemps. Mais justement, si je ne laisse pas de respiration dans mon agenda, hein, si je ne laisse pas il y a forcément, à un moment donné, il va y avoir une tension, il va y avoir un stress, il va y avoir il va y avoir une volonté de dominer qui va s'exercer d'une part ou d'autre. Le temps de Dieu aussi. Respectez le temps de Dieu. Certains viennent avec beaucoup de questions. Vous n'aurez pas forcément beaucoup de réponses. En tout cas, forcément, en 5 jours, des réponses à toutes vos questions. Mais je pense que dans votre vie spirituelle, c'est important que vous fassiez aussi preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'il y a la réponse pour aujourd'hui. Il y a ça qui m'est donné comme poteau indicateur, il y a ça qui m'est donné comme chemin pour suivre, pour aujourd'hui, le pain quotidien, c'est le pain quotidien. Et d'avoir cette patience. Derrière la question du temps, il y a la question de la patience. La patience par rapport, dans ma vie spirituelle, à la découverte, et peut-être je voudrais aller plus vite, je voudrais résoudre des choses, des attitudes que je trouve en moi, que j'aime pas, et qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à mes frères, et j'aimerais les résoudre. Parce que ça suffit pas d'appuyer sur le bouton pour les résoudre. Et ça, on en fait tous l'expérience. Mais justement, de laisser le temps de Dieu, de laisser le temps de la grâce, et simplement de laisser la porte ouverte. Ce que vous avez à faire, c'est ouvrir la porte. C'est pas pour rien que le Saint-Père, dans cette année de la foi, a donné comme document introductif Porta Fidei, la porte de la foi. Il faut ouvrir les portes. Et dans notre Occident, il y a des portes qui sont fermées à Dieu, très clairement. Je ne parle pas de vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous la fermez, vous ne fermez pas votre porte à Dieu. Sinon, mais c'est très important de laisser cette porte ouverte pour que Dieu agisse au rythme que lui-même a. Veut, et puis au rythme que vous-même vous souhaitez. Hein. Derrière l'humilité face au temps, il y a l'humilité, l'accueil de la limite. À travers la limite du temps, ce sont aussi nos propres limites que l'on accueille. Accueillir le manque. Hein. C'est un lieu où Dieu pourra être présent. Quelle place je donne, par exemple, au manque? Quelle place je donne aux situations d'impuissance? Où je ne peux pas changer les choses. Quelle place je donne à ça? Est-ce que où est-ce que je suis dans une forme de volonté de puissance et j'y arriverai coûte que coûte et puis je me raidis et je marche à la force du poignet. Ou est-ce qu'au contraire je dans ces situations d'impuissance, dans ces manques, j'y découvre aussi une source de communion, quelque chose qui me pousse vers l'autre, quelque chose qui me pousse vers le Seigneur. Comme un pauvre. L'humilité face au temps, c'est aussi la patience, je l'ai dit, mais liée à la patience, la douceur. La douceur, c'est d'accueillir aussi le temps et les contretemps comme des maîtres spirituels. Et j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal qui disait « Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. » Circonstances et nécessités, c'est-à-dire des choses que je n'ai pas choisies. C'est voilà, je suis né dans ce pays, dans cette famille, dans ce temps-là de l'histoire, de l'homme, de l'humanité, avec garçon, fille, etc. Il y a des tas de choses que j'ai pas choisies. Le Seigneur nous demande, dans un regard de foi, être humble, c'est accueillir comme une chance, comme une grâce, tout ce que l'on est et tout ce que l'on a, et tout ce que, voilà, c'est ce qui fait notre humanité. Et ça, c'est une relation. En revanche, mais justement, je voudrais pas être binaire. Faut faire parce qu'on passe par les deux états en même temps. Hein, et je veux dire, séparation entre orgueil et humilité, c'est pas nous les humbles ici, puis à l'extérieur, voilà, on n'est pas le carré des justes au milieu des pécheurs. C'est-à-dire, cette limite, elle passe à l'intérieur du cœur de chacun. Et on veut vivre les deux en même temps, à la fois la colère, à la fois la rébellion, à la fois la volonté de puissance, à la fois l'humilité, le service et l'abandon. C'est mélangé dans notre cœur. Il y a un combat intérieur, il y a un combat spirituel. Donc la douceur, ça se conquiert, c'est vraiment une vertu mariale. C'est une vertu de la Très Sainte Vierge. C'est un don du Saint-Esprit. Vraiment, parce que ça veut dire aussi que par rapport au temps, je suis apaisé. J'ai comme eu un lâcher-prise. Un deuxième aspect, c'est l'humilité face au corps, qui est une humilité très importante. Vraiment, je trouve que le corps est un vrai pédagogue. Notre religion, la religion catholique spécifiquement, quoi qu'on puisse en penser, est une religion du corps. C'est une religion du corps. D'abord dans ce temps d'incarnation, où on voit le corps, Dieu, le Verbe de Dieu, celui qui dit Dieu, la parole de Dieu, s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair, a pris notre nature, a pris un corps. Mais ce corps-là, il va encore plus loin quelque part parce qu'il prend le corps eucharistique, hein, et puis se manifeste cette parole de Dieu dans ce qu'on appelle le corps mystique de l'Église, qui est un corps. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi l'Église a transmis, on peut dire, de façon un peu en toile de fond, voire plus, une image négative du corps. En tout cas, on ne grandit pas et on n'est pas humble en ayant l'image négative du corps, encore moins de son propre corps. Et je pense que de ce côté-là, le pape Jean-Paul II nous a donné des éléments que l'Église n'avait pas pendant 20 siècles. Et il a fallu attendre, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup galéré sur les questions liées au corps, et plus spécifiquement sur les questions liées à la sexualité. Il y a eu beaucoup de galères, parce qu'on n'arrivait pas, quelque part, on voyait opposition corps et âme, qui est une opposition assez platonicienne, hein, le corps prison de l'âme. Et ça a été véhiculé pendant un certain nombre de siècles. Hein, n'oublions pas, le corps m'empêche d'aller vers Dieu. Il y a la chair qui est mauvaise et l'esprit qui essaie de s'élever. Et il faut que l'esprit s'extraie de la chair, mais domine, la maîtrise, la chair pour aller vers Dieu. Et c'est très intéressant parce que le pape Jean-Paul II n'a pas du tout posé les questions sous cette forme-là. Il a rappelé premièrement que le corps avait une vocation. Notre corps a une vocation. Et c'est peut-être pas la première fois que vous entendez ça, parce que qu'une personne a une vocation, c'est sûr, mais que le corps est une vocation, et il le dit, quelle est la vocation du corps ? À manifester, à rendre visible l'invisible. Et il rajoute, dans deux aspects, dans l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire dans ce fait que le Verbe se soit fait chair, il manifeste l'amour invisible du Père dans le corps visible du Christ, dans ce corps visible continué qu'est l'Église, le Christ continué. Et puis, il a cette vocation, le corps, de manifester et de rendre visible l'amour invisible dans l'intimité des époux. Et donc, du coup, Jean-Paul II a tout de suite rappelé le lien entre le corps et la personne. Et hier, Marie-Laure nous a dit un peu quelque chose de cet ordre-là aussi, hein, comment des blocages intérieurs, d'une manière ou d'une autre, ça rejaillit sur son corps. Et alors, du coup, le problème n'est pas tellement le corps, le problème c'est ce dont le corps est le symptôme. Le corps c'est du symptôme. Hein. Et donc d'avoir une humilité face à son corps, c'est d'abord accueillir, on n'a pas tous la même énergie. Il y en a qui sont plus fatigables que d'autres. On n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil. C'est accueillir la vieillesse. Bon, ça vous concerne pas tellement, mais ça concerne peut-être vos grands-parents. Bah, l'accueillir la vieillesse dans le corps de l'autre, vraiment, c'est. Je pense à notre père Jean qui est à l'hôpital. Voilà, son corps lui lâche petit à petit Et en même temps, Jean Vanier, que vous le connaissez peut-être, hein, c'est le fondateur de l'Arche, où des personnes handicapées vivent comme ça avec des jeunes, etc., une vie familiale. Il dit, il y a deux âges bénis dans l'histoire de chaque personne humaine. Il y a là le petit âge et il y a le grand, et la grande vieillesse et le grand âge. L'âge de l'enfance et le grand âge. Parce que là, ou alors on dit, comme d'autres le disent, c'est le grand naufrage. Et nous, nous disons non, c'est le grand lieu de la rencontre. Ça peut le devenir, en tout cas, si on regarde. Mais parce que, c'est là où on voit qu'au plan spirituel, le corps est un vrai pédagogue. Alors que, au contraire, d'enfant, eh bien, on nous a appris à être autonome, à être, etc. Et puis dans la vie, dans la force de l'âge, voilà, à mener des projets, etc. C'est très bien, tout ça, c'est très bien. Il y a comme une montée en puissance. Et on voit bien qu'au fur et à mesure de l'âge, eh bien, les forces diminuent, la résistance diminue, et il y a comme une autre maturité spirituelle à acquérir. Je trouve que c'est très beau de voir cet accueil du corps dans ses limites. Accueil du corps dans ses limites, ça peut être, je parle de la vieillesse, ça peut être le handicap, ça peut être la maladie. Voilà, l'un ou l'autre peut être porteur d'une maladie. Et puis voilà, il n'a pas choisi, il a un traitement, il a, que sais-je, une maladie temporaire ou une maladie un peu plus définitive. Où est-ce que j'en suis de l'accueil des limites? Est-ce que j'ai un regard de croyant? C'est ça ma question. Est-ce que j'ai un regard de croyant sur mon corps? C'est pas simplement un regard naturel ou psychologique ou quoi qu'est-ce, non. Est-ce que j'ai un regard de croyant? Et que je découvre aussi dans le corps... Hein, quelque chose, hein, on est à l'image et à la ressemblance de Dieu dans notre corps. Il n'y a rien de sale dans le corps. C'est le cœur de l'homme et de la femme qui sont sales. Mais dans le corps, il n'y a rien de sale. Ça, ça mènerait un grand développement, mais en tout cas, revisiter ça. L'humilité face à son propre corps, c'est d'avoir un juste rapport par rapport au corps de l'autre. C'est ce qu'on appelle la chasteté. La chasteté est une forme d'humilité, et je le précise pour ceux qui se destinent au mariage, la chasteté n'est pas l'apanage des religieux, des prêtres, etc. La chasteté, c'est... il y a une chasteté conjugale, c'est refuser de mettre, d'utiliser le corps de l'autre pour soi. La chasteté, c'est un juste rapport par rapport au corps de l'autre, mais la chasteté va bien au-delà des questions de corps et de sexualité. La chasteté, c'est une attitude du cœur. Je refuse de mettre la main sur l'autre, de posséder l'autre, de manipuler. Et des manques de chasteté, ça peut être tout simplement, être le tout d'une personne, par exemple. On voit bien dans les sectes. Des personnes très charismatiques, etc., qui attirent, et s'ils n'ont pas cette chasteté intérieure du cœur, eh bien, ça peut très vite, et c'est curieux, comme le lien entre les deux se vérifie souvent, hein, quand on n'a pas la chasteté du cœur, tôt ou tard, le corps manifeste, et le corps parle. Donc, c'est pas facile, c'est au fond, la chasteté, c'est la vertu de l'altérité, de l'autre est autre que moi. Par rapport au corps, c'est aussi accueillir, c'est revisiter son rapport à la nourriture, en trop ou en pas assez, hein, son rapport à l'alcool, en trop, pas assez, je ne sais pas si on peut dire pas assez. chez SPSP, on dit pas assez, ce rapport à l'alcool, quand une personne, par exemple, alcoolique vient me voir, ou une personne, ou des difficultés par rapport à la nourriture, que ce soit l'anorexie, que ce soit la boulimie, faut toujours chercher de quoi c'est le signe. Le corps parle, il y a une unité du corps et de la personne. Le corps dit la personne. Ça, c'est aussi quelque chose de très beau dans Jean-Paul II. Il dit la personne. Le corps dit la personne. Donc du coup, c'est pour ça que il n'existe pas des personnes qui soient des légumes, par exemple. Hein, ce qu'on appelle l'état neurovégétatif, une personne qui a eu un AVC très grave ou le coma, etc. Ah ben c'est un légume. Non, nous disons, ce corps-là qui peut-être il ne peut pas s'exprimer, ne peut pas se mouvoir, a besoin de tas de respirateurs autour de lui, etc., et de machines, nous disons que par son corps, il y a sa personne qui est présente. Et donc, par le corps, je donne aussi les soins à sa personne. Et c'est intéressant de voir que, pour les enfants, les nourrissons, bah, la manière de les aimer, leur personne, ça passera par le corps. Les personnes grandement handicapées, c'est pareil. Les personnes grandement malades, il n'y a plus que par le langage du corps, à un moment donné. Et ça, je trouve, c'est très beau. Et donc, justement, par rapport à ça, de voir au fond, le corps peut être la source aussi de compensation. De compensation parce que, voilà, que ce soit au niveau de la nourriture, de la boisson, au niveau de la sexualité, voilà, je suis plus dans une logique de manifester l'amour, je suis dans une logique de compenser quelque chose, et en fait, il faut que, voilà, et petit à petit, je prenne, ou la drogue, hein, je pense, faut aussi prendre la question de la drogue, mais parce que du coup, ça me fait être à l'aise dans mon corps, du coup, voilà, ça me donne une respiration, mais au lieu de voir en amont, mais pourquoi est-ce que tu arrives dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie de foi, parce que c'est dans ta vie spirituelle, ta vie humaine, il faut revisiter les deux, et de voir qu'au fond, le corps manifeste quelque chose parfois d'un déséquilibre intérieur. Parfois, hein, donc c'est... du coup, il faut reprendre... Et c'est souvent que quand on remet sa vie spirituelle en place... C'est comme, on remet Dieu à sa place, c'est comme tout s'emboîte, vous voyez, tout devient clair, quelque part, tout prend une finalité. Alors, c'est pas magique, il faut aussi avoir une patience avec son corps, on n'a pas forcément une maîtrise de son corps, on a des pulsions, on a des, voilà, des tas de choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Mais en même temps, de se rappeler que le corps, la vocation du corps, comme la vocation de la personne, le corps est fait pour le don. C'est une vocation au don, à l'offrande quelque part, à la communion. On est tous appelés à la communion. Et c'est par son corps livré sur la croix que Jésus lui-même nous a ouvert la possibilité d'une communion à nouveau avec le Père. C'est bien par le corps, et jamais sans lui. Voilà. Humilité, autre point, humilité et intelligence. L'intelligence supérieure, c'est une intelligence qui a grandi dans l'humilité. C'est quoi l'humilité de l'intelligence? L'humilité de l'intelligence, c'est de ne... Parce que dans l'orgueil de l'intelligence, il y a une difficulté qu'il n'y a peut-être pas dans les autres formes d'orgueil. Ben voilà, quand on manque de chasteté, quand on manque, on est alcoolique, quand on est impatient, on est colérique, on est... Voilà, quelque part, on s'en rend compte. Et puis, il y a un peu la honte qui vient avec, du coup, que... Mais dans l'orgueil de l'intelligence, on ne s'en rend pas compte. C'est quelque chose qui ne se maîtrise pas tellement. Et donc, du coup, c'est les autres qui s'en rendent compte. Mais pour nous, c'est plus difficile de mettre la main là-dessus. Donc, l'orgueil de l'intelligence, parlons plutôt de l'humilité, c'est d'abord de mettre, que l'intelligence ne se prenne pas pour source. Ça veut dire quoi? Que l'intelligence se laisse féconder par le réel. Et dans ce réel, il y a les personnes qui m'entourent, il y a la création, il y a Dieu. Et donc, au fond, une intelligence supérieure, c'est une intelligence qui a grandi dans une capacité d'accueil, qui s'est laissée féconder. C'est différent d'une l'érudition. Là, on ne parle pas de diplôme, là. On parle pas de... C'est cette capacité à connecter au réel, cette capacité à faire le lien entre les choses, cette capacité à faire que, quelque part, j'accueille le réel comme premier, alors que l'orgueil de l'intelligence, c'est mon intelligence est première, et le réel n'est que la prolongation de mon intelligence. Vous avez un peu quelque chose qui est assez semblable, c'est un un philosophe, par exemple Descartes, le fameux doute cartésien, il dit « il faut douter de tout, mais je ne peux pas douter que je pense, parce que si je pense, c'est bien que je doute, et si je doute, je pense, donc du coup, voilà, je pense, donc voilà, donc je vais partir de ma pensée ». Et toute sa théorie, ensuite, toute sa philosophie cartésienne, vient de mettre au cœur la pensée humaine, comme ce qui est certain. Et là, on voit, c'est tout à, et progressivement, quand on étudie la philosophie, moi je suis très passionné de philosophie, et quand on étudie la philosophie, on voit bien que ce dérapage de l'intelligence qui n'est plus en accord avec le réel, qui n'est plus ancré, hein, dans la réalité, qui ne se laisse plus féconder, qui n'est plus dans un attitude d'accueil, ce dérapage entraîne progressivement que l'intelligence se déconnecte de Dieu. Parce que si au fond, alors que Descartes lui était croyant, pratiquant, etc., mais c'est intéressant de voir comment il a construit son système, Dieu au fond est nécessaire, comme, entre guillemets, comme un mal nécessaire pour que les choses tiennent, jusqu'au moment où il y en a un qui dira « Ben non, moi dans ma théorie, je n'ai pas besoin de Dieu, et ça tient très bien ». Et donc on voit bien comment ce décalage, parce que je n'accueille pas, parce que je ne suis plus en contact avec la réalité concrète qui me vient par les sens, rien ne rentre dans l'intelligence sans passer par les sens, parce que je ne rentre pas dans cette dimension-là, et bien progressivement il y a un enfermement de l'intelligence sur elle-même. Et c'est l'intelligence à cette capacité de donner à nos... Il y a quelque chose d'infini dans l'intelligence. N'oublions pas cette capacité de connaître qui nous rend semblables à Dieu, comme cette capacité d'aimer dans la volonté. Hein? Aimer et connaître, c'est ce qui nous rend semblables à Dieu. Et donc, du coup, il y a vraiment une forme d'humilité donc en accueillant d'abord la révélation de Dieu. Et ça, je me permets d'insister, c'est que là, je l'ai dit un tout petit mot, mais au fond, la foi, elle est dans l'intelligence. Elle est vraiment, elle élève l'intelligence à une réalité qui n'est pas visible par ses seules forces, auxquelles elle n'atteindrait pas par ses seules forces, la foi. Hein? Et donc, du coup, parce que si on met la foi ailleurs, ça va être très problématique. Si vous mettez la foi, par exemple, dans la sensibilité, alors il y a le père Intel, il me parle, alors ça me fait des tas de gouzi-gouzi. Je vais dans tel groupe de prière, j'entends une chanson, bon, il y a pas, voilà. Avec des instruments de musique, etc. Je suis dans l'état, je me mets dans... Voilà, ça me fait couler les larmes tellement que j'aime le bon Dieu, etc. Donc je mets la foi dans l'affectif. Alors bien sûr, pas à un moment donné, il y a un affectif, mais cet affectif doit être relayé par l'intelligence. L'intelligence, la foi est rationnelle. Ce n'est pas la crédulité. Hein, on ne va pas vous faire jouer à vendredi 13 pour gagner, ça c'est de la crédulité, ça c'est de la superstition. Mais ce n'est pas la foi. La foi catholique s'appuie sur la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, nous croyons, et donc il y a toute une théologie aussi qui s'est développée à partir de la parole de Dieu. Et tout un travail, c'est une vraie science, mais qui part d'un présupposé, non pas sans, que l'on peut percevoir par les sens, mais qui part de la révélation. Et la foi, c'est de dire oui à cette vraie, oui, c'est vrai. Et parce que j'accueille cette révélation de Dieu dans sa parole, dans ses sacrements, dans son Église, eh bien, Marie-Laure l'a très bien dit hier, mais il y a des tas de portes qui s'ouvrent. Et vous commencez à faire des connexions entre les mystères de Dieu, entre l'Eucharistie, entre la Trinité, entre les sacrements, c'est comme une ouverture sur un océan. Dieu lui-même. Donc, moi, je vous dis ça aussi, l'importance que vous travaillez, vous formiez votre foi. Vous avez, de façon générale, à dire votre foi par rapport à d'autres, à la verbaliser. Parce que vous n'avez pas assez étudié, parce que vous ne connaissez pas. Et commencez, par exemple, par un truc qui est assez récurrent, mais j'espère chaque semaine pour les uns et les autres, c'est la messe. Je vous mets au défi, il y en a un... Et pendant une demi-heure, elle m'explique ce que c'est que la messe. Comme ça, est-ce que vous savez ce que me dire, moi, je suis païen, c'est quoi la messe, où tu vas, etc., qu'est-ce qui se passe, c'est quoi pourquoi on s'assoit, pourquoi on se lève, pourquoi il n'y a pas de gloria pendant le carême, pourquoi le prêtre, il est en violet, en blanc, en machin, etc., c'est les modes, c'est quoi. Voilà. Donc, commencez à travailler la messe, par exemple. Parce que c'est quelque chose que vous allez pratiquer à la liturgie. Mais dans la messe, il y a toute la théologie. Vous trouverez la Trinité, parce que d'abord ça commence par le signe de croix, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Vous trouverez le salut, vous trouverez tout dans l'Eucharistie. Donc du coup, mettez votre intelligence au service de votre foi. La difficulté que vous avez pour un certain nombre, c'est que vous avez eu une croissance intellectuelle au niveau professionnel, mais vous êtes resté, dans le meilleur des cas, avec la foi du catéchisme, catéchisme dans lequel on faisait des coloriages. Donc du coup... Donc ça rappelle du vécu. Donc du coup, voilà, du haut de votre formation professionnelle, vous jugez quelque part votre vie de foi. Ben, vous dites évidemment, oh ben ça c'est comme le Père Noël, quoi. C'est comme les mythes romains, etc. On m'a dit ça pour m'endormir le soir, mais quelqu'un d'adulte intelligent ne va pas croire ça, parce qu'il ne connaît pas. Tout simplement. Donc, l'humilité de l'intelligence, c'est d'accueillir la révélation. À un moment donné, de dire oui, je crois. Et parce que je crois, ben, je commence à travailler les mystères de Dieu, mystère de la Trinité, mystère de l'Eucharistie, puis le mystère de la Vierge Marie, le mystère de l'Esprit Saint. Mais plus vous faites les connexions entre les choses, plus les choses vous parlent, s'éclairent l'une l'autre, etc. Et vous pouvez aussi dire pourquoi vous croyez et en quoi vous croyez. Ah, ben, j'étais très marqué dans un lycée catholique, là où je suis intervenu pour faire un peu de pub pour l'aumônerie étudiante dont je m'occupais. Ben, il y avait des BTS. Alors je demande qu'est-ce qui est baptisé. Bon, grosso modo, la moitié. Et qu'est-ce qui est pratiquant? Ben voilà, c'était tous autour des filles. Les filles musulmanes levaient la main et expliquaient très bien leur foi, etc. C'était très bien. Bon, côté catho, là, on a dit c'est catho. On est en milieu, voilà, plutôt, c'est pas milieu hostile, quoi, on le suppose, quoi. Pas une n'a levé la main pour expliquer ce qu'est la foi catholique. Ça, moi, je trouve qu'il y a un énorme problème. Ça, c'est aberrant, quoi. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas du domaine de l'intelligence de la foi, qui n'a pas été vécu. Hein. À force de construire la foi sur de l'émotionnel, à grands coups de temps fort, etc., oui, c'est bien, mais il faut bosser. Et il faut apprendre. Voilà. Pas peine de s'énerver, donc du coup... Sinon, on manquerait d'humilité, de quoi que bref. Alors, le réel, voilà. Donc, grandir dans la connaissance pour améliorer. Hein, parce que la difficulté dans l'orgueil, c'est qu'on peut donner à nos désirs l'infini de l'intelligence. C'est ça la difficulté. Si on n'est pas dans l'humilité, on peut se servir de l'intelligence et de cette capacité infinie. Parce que, rendez-vous compte que l'intelligence amène la capacité de contempler Dieu. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'infini, nous sommes porteurs de quelque chose de plus grand, d'infini en nous, on peut tout connaître, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, mais théoriquement on pourrait tout connaître, si on prend le temps, s'il faudrait peut-être plusieurs vies, mais il n'y a rien qui ne puisse rentrer dans l'intelligence, tout, jusqu'à Dieu lui-même, et Dieu qui rentre dans l'intelligence, ça s'appelle la béatitude. Être bienheureux, c'est Dieu qui rentre dans son intelligence et qui l'éclaire de son mystère. Et ça, pour l'éternité. Donc la foi rend humble, et elle élève notre intelligence, elle ne la rabaisse pas, elle l'élève. Mais la foi demande cette humilité des pauvres de cœur, hein, cette première des béatitudes, hein, qui est au présent. C'est intéressant, hein, la première est au présent, les autres sont au futur, la première est au présent. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Les autres, ils seront consolés, ils seront machins, etc., etc. Mais, hein, voilà. L'humilité de la volonté. La volonté, c'est cette capacité d'aimer. Cette capacité de décision. Cette capacité de choix. Donc là, c'est plus facile, c'est plus simple. L'humilité de la volonté, ben, c'est aller vers l'autre et demander pardon. reconnaître ses torts, qu'on a mal agi, reconnaître peut-être qu'on a des faiblesses dans notre volonté, ah bah oui, je vais ranger mon placard demain, ou j'arrête de fumer demain, c'est la dernière. Voilà, ce manque de volonté, ce manque de force, la vertu de force, hein, que j'ai évoquée comme vertu cardinale, cette vertu de force qui nous donne justement le courage. Donc c'est manque de courage qu'on a. Et plus la volonté est forte, plus elle est ancrée, dirigée vers quelques actions. Mais vraiment, c'est ça. C'est intéressant de voir saint Thomas d'Aquin relie la grandeur d'âme, c'est-à-dire d'avoir des grands désirs, de faire, d'entreprendre des grandes actions, relie ça avec l'humilité. Parce qu'une forme d'orgueil, c'est jouer au planqué. Et c'est surtout, voilà. Surtout, je suis dans mon petit coin, que personne ne me dérange, et c'est ce qu'on appelle le pusillanime. Pusillanime, voilà, c'est celui qui ne va pas se mouiller, hein, laisse faire les autres. Contrairement au magnanime, magna anima, l'âme grande, la grandeur d'âme. La grandeur d'âme est un signe d'humilité. Le courage est un signe d'humilité. Et par rapport à notre volonté, donc c'est le lieu de l'amour, on peut avoir des faiblesses dans la volonté, c'est sûr. Donc on travaille, c'est avec la pratique des vertus, bon. Mais aussi par rapport à la volonté de Dieu. Et ça, là aussi, c'est très important. Il peut y avoir, il faut, et ça c'est un combat, ne pas voir la volonté de Dieu comme concurrente à la nôtre. Ça, c'est un des fruits du péché originel. J'ai eu peur et je me suis caché. Hein, Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Hein, dans les premières pages de la Bible, j'ai eu peur et je me suis caché. Il y a quelque chose de la peur de Dieu en nous. Encore. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va... Ça, il faut vraiment le... Il faut lutter contre. Il faut... Qui fait qu'on ne prie pas, par exemple? Qui fait qu'on ne... On ne grandit pas dans la vie de foi? Parce que il y a comme une réticence. Il y a comme, vous voyez... Ou alors, je vais pas me faire avoir. Bah oui, les autres, ils se sont fait avoir, mais moi, je reste sur mon compte à... avec ma fierté, moi je suis supérieur à tout le monde. Je suis supérieur à tout le monde, les autres, bon, ben, faut bien une béquille pour marcher, voilà, ils ont la foi, voilà, ben, les pauvres, voilà. Moi je suis autonome. Ah, ça, c'est l'orgueil dans la volonté. Et une vie de prière est l'un des signes de l'humilité. Comme l'absence de prière est un signe d'orgueil. Parce que dans l'absence de prière, au fond, on se prend soi-même pour Dieu. Alors, on ne le dit pas comme ça, parce qu'on terminerait à l'asile psychiatrique, et si je suis Dieu, etc. Juste pour vous détendre, le père Stéphane, qui nous a fait répéter les chants, lui, est au moyen de l'hôpital psychiatrique, là, Clermont dans l'Oise, là, pas très loin. Et donc, il y en avait un qui avait prévu la fin du monde pour le 12 décembre. C'était pas le 21, c'était le 12. Mais pourquoi vous ne croyez pas, etc. Il faut que vous me croyez. Ça fait quand même 40 ans que je vous dis que je suis Jésus-Christ. Et je sais. Bon, alors bon, ça me fait. Et je sais bien ce que je dis. Donc c'est bien le 12 décembre, voilà. Ça, donc c'est voilà. Mais alors nous on en rit. Mais le fait de ne pas prier, c'est de ne pas accueillir une autre lumière que la seule lumière de sa propre intelligence. C'est un repli sur soi. C'est de ne pas le garder le cœur ouvert à plus grand. Alors, on ne le formule pas comme ça, hein. On ne dit pas, oui, moi, je veux être Dieu, etc. Mais bien sûr que non. Mais dans les actes, dans les faits, c'est ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire, parce que si j'accepte une lumière plus grande, ben, j'y consacre un temps à cette lumière plus grande. Mais si je ne l'accepte pas, j'y consacre pas de temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas plus grande. Ou alors plus grande en absolu, mais pas dans le concret de ma vie. Humilité dans la sensibilité. Face à ces émotions. La sensibilité, j'appelle quoi la sensibilité? C'est tout le domaine des émotions. L'émotion, imagination. Face à ces émotions, il y a des personnes plus émotives que d'autres. Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. De même, il y a des personnes qui sont plus dans l'imagination que d'autres. Et qui décollent très vite, qui planent. Qui se mettent en mode avion. J'ai appris ça pendant la retraite, que dans les iPhones et autres smartphones, il y avait le mode avion. Vous avez ça dans votre truc? Alors, en fait, on n'a pas distribué de réveil parce qu'en fait, c'est le mode avion maintenant. Je dis, mettez-vous en mode avion. Oui, c'est ça. Toi, c'était bien en mode avion. Ouais, c'est vrai, d'accord. Alors voilà, il y en a qui se mettent en mode avion, mais pas sous le même rapport, c'est-à-dire qu'ils sont ailleurs. Ils sont pas dans ce monde. Ils décollent, mais ils sont pas. Ils laissent l'imagination, comme on dit, prendre le pouvoir, mais dans le sens de c'est une forme de repli sur soi aussi. On n'est plus ouvert au réel. Vous voyez, on est. Et donc, c'est important l'humilité, c'est l'épreuve du réel, on parle pour l'imagination. Et face à l'émotion, à la sensibilité, l'humilité, c'est que, voilà, on a la sensibilité qu'on a, on ne l'a pas toujours choisie. Qu'est-ce que je voulais que j'y fasse, hein. Il y en a qui sont très colériques, il y en a qui sont très émotifs, il y en a qui sont très. Qui extériorisent beaucoup, il y en a qui. Bon. Voilà. Mais. En tout cas, ce n'est pas à l'émotion de prendre la décision. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion, et ça c'est le témoignage de tous les saints. Méfie-toi de toi-même. Méfie-toi de toi-même. Tu sais que tu es exalté, voilà, t'es exalté, etc. Puis d'un coup, les gens bipolaires, c'est une maladie les bipolaires, ça. Exalté et dépressif. Alors, ça va être extrêmement pénible. Exalté, dépressif. Alors, tout d'un coup, c'est tout le monde, et ils vont gravir l'Annapurna, etc. Puis le lendemain, au bord du gouffre, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Bon, c'est un peu excessif, mais attention à ça. L'humilité face à la sensibilité, à l'émotion, comme à l'imagination, c'est de ne pas les laisser le gouvernail. Voilà, donc je crois que nous pouvons un peu relire ces différents points. On peut le traiter d'une autre manière, la question de l'humilité, mais on voit bien qu'il y a un combat intérieur à livrer. Et vous puissiez prendre du temps pour relire un peu par rapport au temps lui-même, justement, par rapport au corps, à l'intelligence, à la volonté, à votre sensibilité, par rapport au courage et à la capacité d'agir, dont j'ai parlé, de voir où est-ce que j'en suis de cette humilité. Et de demander justement au Seigneur, parce que pour que ma vie porte du fruit, il y a quelque chose de l'humilité qui doit être là.